Eh bien, très chers auditeurs d'Aligre FM, bienvenue. Nous sommes en direct aujourd'hui, samedi 14 décembre, pour une nouvelle émission de Philosophie au présent, une émission de la Voix du Collège international de philosophie, un partenariat qui dure déjà depuis quelques années entre Aligre FM et le Collège international de philosophie, qui ont quasiment le même âge. Bonjour les amis, quel bonheur de vous revoir.
Alors,
bonjour Nathalie. Stéphanie Ronchevski, dont vous entendez la petite voix. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Nathalie Perrin.
Bonjour. Et puis Michele Saporiti, très cher collègue.
Bonjour, comment va-t-il? Nathalie, ouais, ça va très bien.
Ça va très bien.
Très heureux de vous revoir.
Oui, aujourd'hui, hein. oui, ça faisait longtemps. Eh bien, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un collègue, hein, puisqu'on rappelle qu'autour de la table, on est tous soit encore en position d'être directeur de programme, soit ex-directeur de programme au Collège international de philosophie. Et nous recevons donc aujourd'hui Étienne Elmer. Bonjour Étienne, merci d'être venu.
Bonjour, et surtout merci beaucoup à vous de m'accueillir dans les studios d'Aligre FM.
C'est un vrai plaisir pour nous. Alors je vais tout de suite passer la parole à Michele pour nous parler finalement, aujourd'hui nous présenter Étienne Elmer, et on va faire parler Étienne sur vraiment sa recherche spécifique autour de la mendicité, de la pauvreté, de la figure de la pauvreté et du pauvre aujourd'hui par rapport à la philosophie. Michele, absolument, je te laisse la parole.
Bon, merci chère Nathalie. Alors, bienvenue chère Étienne. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'accueillir un collègue, hein, un directeur de programme du Collège international de philosophie. Et avant tout, je voudrais dire quelques mots sur ton parcours, parce que tu es directeur de programme au Collège international de philosophie depuis 2022. Hein, comme
oui.
moi, aussi tu es professeur de philosophie à Puerto Rico.
Exactement.
Exactement, super. Et alors, Étienne, tu es l'auteur de, disons, du bibliographie tout à fait remarquable, et je voudrais citer quelques ouvrages qui donnent un peu, disons, l'esprit de ton parcours. Je mentionne par exemple un Mendier peut-être, Verdier 2023, mais aussi sur ta direction Mendiant et mendicité en Grèce ancienne, Classique Garnier 2020, mais aussi encore sous ta direction, Richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité, Vran 2016. Et Les derniers des hommes, ça c'est comme auteur, figure de Mendiant en Grèce ancienne. Mais je voudrais revenir 2015, pardon, édition du Félin. Mais je voudrais revenir sur ton parcours au Collège international de philosophie et surtout sur le titre de ton programme de recherche. Qui est un titre qui donne un peu, je trouve, je ne sais pas si mes amis et collègues sont d'accord avec moi, mais vraiment l'esprit de l'émission d'aujourd'hui. Et donc, ton programme de recherche s'intitule « Philosopher aujourd'hui à l'épreuve de la pauvreté, communauté, solidarité, réciprocité ». Pourquoi ces titres tiennent, et aussi pourquoi cette centralité de la pauvreté dans ton parcours de réflexion?
Oui, alors mon intérêt pour la pauvreté provient du croisement de plusieurs fils. Il y a un premier fil qui apparaît un petit peu dans les titres que tu as cités, Michele, c'est que je travaille beaucoup sur la philosophie ancienne, et en particulier les aspects sociaux, économiques. Des penseurs, disons, de l'époque classique, et puis un petit peu hellénistique. Et il m'a semblé que ces philosophes sont très attentifs à des questions matérielles qui tournent autour de l'économie et autour de l'articulation de la richesse et de la pauvreté. Alors, non pas simplement pour des préoccupations, aussi pour des préoccupations sociales impliquées par ces deux phénomènes, mais aussi parce que, d'une certaine manière, la richesse et la pauvreté ont un vrai impact sur la philosophie elle-même. C'est-à-dire que chez ces philosophes, dont certaines figures comme Socrate, par exemple, Socrate revendique le fait de n'avoir rien, et que c'est ce qui garantit la vérité de ses propos. D'autres vont être plus radicaux encore, et exiger de mener une vie pauvre pour pouvoir philosopher. Je pense par exemple aux cyniques. Mm-hmm. Donc il y a toute une variété. On pourrait citer aussi, de façon un peu plus modérée, les épicuriens.
Tout à fait,
qui,
oui.
Qui eux, ne revendiquent pas une forme de pauvreté au sens de dénuement complet comme les cyniques. Mm-hmm. Mais cherchent à limiter la sphère de leurs désirs pour se contenter du nécessaire. Et puis à l'opposé, on a des penseurs dans l'Antiquité qui font de la richesse le signe de l'efficacité de leurs paroles et de leur manière de philosopher. On pense aux sophistes, par exemple.
Oui.
Voilà. Et si on prend ça très au sérieux, donc ça veut bien dire que les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, en prenant les pôles extrêmes ici, richesse, pauvreté, extrême richesse ou extrême pauvreté, ne sont pas simplement des conditions de vie permettant ensuite de se livrer à différentes activités, mais qu'elles impactent véritablement le cœur de l'activité philosophique et son exigence de vérité. Donc ça, c'est un premier point pour expliquer pourquoi les questions de pauvreté m'intéressent. Et puis ensuite, mon intérêt pour la philosophie ancienne est lié à ce que la philosophie ancienne peut nous dire pour aujourd'hui. Donc avec un effet de retour sur les questions, sur des questions sociales, politiques, économiques, contemporaines.
Alors Étienne, je me permets de couper la parole, de te couper la parole, on va pas faire semblant de vous soyez puisqu'on est collègues. Est-ce que tu peux pour nos auditeurs un petit peu nous... parce qu'on va revenir sur tes spécialités de la Grèce antique, et notamment un féru connaisseur de Platon. Qu'est-ce que tu entends par pauvreté? Comment tu conçois la pauvreté? Parce que ce qui est très intéressant dans ton œuvre et aussi dans ton programme du Collège international de philosophie, c'est que de cette chose, on pourrait dire empirique, appartenant au domaine de la pratique et de l'expérience, la pauvreté, une expérience de pauvreté, tu en fais un concept qui vient d'une certaine manière mettre en question le travail philosophique. Alors, qu'entends-tu par pauvreté? Comment travailles-tu ce concept?
Alors, c'est un concept qui est difficile à cerner, puisque sa définition... que ce soit celle que donnent des économistes, des sociologues, est assez variable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue, il peut y avoir aussi une certaine vertu de la pauvreté qui vient de très loin dans l'histoire de la philosophie. Oui. Et qu'on va retrouver aujourd'hui aussi sous des formes positives, dans ce qui pourrait être par exemple la sobriété ou la frugalité. Donc c'est vraiment une notion multifacette. Et dans un premier temps, au Collège international de philosophie, j'ai essayé de m'intéresser à la pauvreté dans son sens, je dirais, le plus négatif, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir les moyens, pour un certain nombre de raisons, de mener une vie bonne, soit pour les individus, soit pour les collectivités. Mmh. Voilà, donc c'est une définition extrêmement générale qui cherche à ne pas limiter la pauvreté à son aspect économique. C'est-à-dire que, bien sûr, les ressources économiques et matérielles sont importantes, mais on peut être pauvre aussi parce qu'on n'a pas accès, finalement, à la possibilité d'avoir accès à une éducation supérieure, même si, finalement, on a de quoi subvenir à ses besoins, parce qu'on a accès à une offre culturelle trop limitée, parce qu'on vit à l'écart de pôles urbains qui offrent un certain nombre de services. Donc, tout un certain nombre de choses qui peuvent être liées, par exemple, à des questions d'injustice spatiale. Donc, la pauvreté était vraiment un concept polymorphe, si j'ose dire, difficile à cerner. Et dans les séminaires que j'ai jusqu'à présent organisés, soit en prenant moi-même la parole, soit en invitant des gens, ont essayé de montrer ces différents aspects. Encore une fois, pour l'instant, que l'aspect vraiment négatif, pour essayer de comprendre comment la pauvreté impacte réellement la vie des individus et des collectifs. Et juste un point, pour compléter la présentation de cette phase, il m'a semblé que la pauvreté a été vraiment une question philosophique centrale, en gros, jusqu'au 19e, avec la question sociale, et que dans l'après-guerre, alors c'est peut-être mon ignorance qui parle, mais il m'a semblé que c'était plus vraiment un sujet dans l'espace philosophique européen. Qu'on est parti sur d'autres sujets, des questions de reconnaissance, des questions maintenant liées aux études de genre, aux études coloniales, donc il y a des questions qui ont à voir avec des injustices. Mais la notion même de pauvreté n'est plus un terme finalement tellement employé, ne serait-ce que dans les discours publics finalement, discours politiques. On ne parle plus de pauvreté, alors que c'est, il me semble, une réalité qu'on a pu voir réapparaître un petit peu avec le Covid, par exemple avec les personnes isolées, les étudiants qui n'avaient... certains ne pouvaient pas se nourrir, même régulièrement. C'est un peu réapparu, mais ça ne fait pas l'objet. C'est pas un objet politique et social vraiment central.
Central, ouais.
Voilà,
ouais.
C'est un peu à la marge et ça tient à la bonne volonté des associations, des individus qui décident d'aider, etc. Donc, je me suis dit que là, il y avait un manque et peut-être qu'il fallait ressaisir des outils philosophiques pour se réapproprier cette notion et voir après comment la travailler.
Aligre FM 93.1.
Dans votre magnifique livre, Le dernier des hommes, figure du mendiant en Grèce ancienne, que tu as cité, Michele, publié aux éditions Le Félin en 2015, donc le dernier avec un D majuscule et figure au pluriel, qui, je dis magnifique livre parce que justement il répond bien aux exigences, bien sûr, de la recherche philosophique en s'appuyant très précisément sur des auteurs comme Homère, Sophocle, Aristophane, Platon, les cyniques. Et c'est un livre qui nous projette dans la cité grecque classique, on y est vraiment, et en ce sens c'est un vrai plaisir de vous lire, et en même temps on est renvoyé à notre propre société. Alors vous décrivez cette figure du mendiant, cet être aux marges de la cité, de ses normes, et il est évidemment l'antimodèle de l'homme accompli, de celui qui a réussi. Le mendiant, l'exclu et celui qui est rejeté, qui est même soupçonné d'être un parasite, un profiteur, une menace, un être qui dérange, comme on peut aussi l'observer par exemple nous quand on est dans le métro parisien, on voit les réactions des gens qui ont un certain recul. C'est un être parfois contre qui la société veut se préserver. Alors là je pense à des mesures qui ont été prises il y a quelques années dans certaines municipalités avec des blancs anti-clodo, anti-clochard, anti-SDF, on les appelait de plusieurs manières, et ça a fait quand même polémique. Et le mendiant, en même temps, dans votre livre, on voit que c'est aussi celui qui, parce qu'il est en marge de la société, se fait révélateur des limites de cette société. Il serait celui qui pointe les défauts, les insuffisances. Il peut même, face aux folies qu'encourage l'amour démesuré des richesses, être celui qui incarne la vertu. Il peut aussi être celui qui choisit de mener volontairement, comme Diogène, une vie libre, c'est-à-dire libérée des contraintes sociales, matérielles, financières. Bon, on va y revenir. Alors, donc, en ce sens, la figure du mendiant interroge la philosophie qui vous dit au début de votre livre, je vous cite, n'a d'autre choix que de délaisser les oppositions admises et de les réarticuler au nom d'une pensée des limites dont le mendiant est l'incarnation vivante, mourante. Alors, avant de distinguer ces différentes figures de la mendicité, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement la différence entre la figure du pauvre, dont vous venez déjà un peu de parler, et celle du mendiant ? Étienne Elmer, parce que je sais que vous les distinguez dans votre livre.
Ouais. Merci beaucoup de votre lecture d'abord, parce que cet ouvrage m'a tenu à cœur quand je l'ai écrit, et a initié, inauguré après des travaux complémentaires que sur cette figure du mendiant, avec des problématiques peut-être plus contemporaines ou des auteurs plus contemporains. Donc merci beaucoup. Différence entre... Ce qui m'a intéressé dans la figure du mendiant, c'est que c'est une figure à la limite. C'est-à-dire qu'on est dans le cas de personnes qui incarnent en quelque sorte une position de crête entre l'exclusion et l'inclusion, entre la vie et la mort, puisque les mendiants n'ont en général... Alors, encore une fois, c'est une figure. Les personnes qui mendient aujourd'hui dans la rue peuvent très bien avoir un abri, peuvent avoir également touché des minima sociaux qui les aident. Donc, encore une fois, le fait de penser en figure aide un petit peu à généraliser pour aider le travail de la pensée. Donc, on est toujours en tout cas dans des situations d'extrême précarité, finalement. C'est quand même ça qui caractérise la figure du mendiant. Sa position dans l'espace public aussi est une position très intéressante, puisque ça oblige à se demander, mais au fond, qu'est-ce que c'est que l'espace public, puisqu'on peut avoir le mendiant peut avoir des activités qu'on a en privé, lui, dans l'espace ouvert et de visibilité publique. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on est sur cette position-là, et d'en faire une fonction critique, en quelque sorte. Voilà.
Etienne, pardon, qu'est-ce qu'est pour vous l'espace public ? Pardon, ça m'intéresse beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'est pour toi ? Oui, on te doit. Oui, ouais, qu'est-ce qu'est pour toi l'espace public ?
Bon, là, je l'ai pris dans un sens pas du tout technique. Hein. Mm-hmm. Là, c'est vraiment... ça serait plutôt un espace de sensibilité ouvert, quoi. Voilà, c'est-à-dire... c'est vraiment une définition, je dirais... presque géographique, enfin je sais pas comment on dirait, spatial quoi. C'est ce qui est offert à la vue.
Donc il n'y a pas la question de l'intimité en fait. Le mendiant, voilà. il se donne à voir.
Eh ben exactement, il se donne à voir. Hein. La différence avec le pauvre, voilà, c'est d'en faire une figure radicale. Parce que la pauvreté a toujours quelque chose de relatif, en fait. Alors, on parle de grande pauvreté ou de moyenne pauvreté. Il y a des degrés. La pauvreté va être définie par rapport à la richesse. Mmh. Donc, quand on est dans le cas de la mendicité, cette ambivalence disparaît d'une certaine manière.
On
passe un seuil, voilà, qualitatif et quantitatif, oui.
D'accord. Alors, justement, dans votre livre, là, Le Dernier des Hommes, vous montrez bien qu'il y a plusieurs figures qui sont très différentes les unes des autres, plusieurs figures du mendiant, selon les auteurs, mais à chaque fois, cette figure donne à penser la société dans laquelle on se trouve. Et vous dites, et d'ailleurs, c'est valable pour toutes les écoles, c'est universel, le mendiant est, pour qui sait le déchiffrer, le meilleur symptôme de son temps. D'ailleurs, les noms qu'on lui donne sont souvent révélateurs de l'image qu'on s'en fait et des valeurs que la société qui le désigne, enfin des valeurs de la société qu'il désigne. Hein. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Vous citez le SDF, le vagabond, le clochard, le marginal, le routard. On pourrait rajouter le va-nu-pied, le miséreux, le pouilleux, le sans-logis. Il y a de manière familière le clodo, le crève-la-faim, de manière littéraire le gueux. Alors, je ne sais pas s'il y a des études très précises de linguistes ou d'historiens qui ont fait des comparatifs. Bon, en tout cas, tout ça illustre chacun à leur manière un rapport différent de la société avec ses exclus. Et pour illustrer au moins deux rapports différents à la mendicité, je me suis plutôt intéressée à les deux dernières figures que vous étudiez dans votre livre du mendiant, deux dernières figures du mendiant, celle de Platon et celle de Diogène. Alors, chez Platon, en fait, quand on parle de mendiant, moi, immédiatement, j'avais pensé au mythe de la naissance d'Eros que raconte Diotime dans Le Banquet, donc Eros qui serait le fils d'une mendiante, Peña, et du dieu richesse, Poros, et donc Eros qui est donc la figure du désir, du moteur, la figure aussi du philosophe, toujours avide de savoir, qui est sur les chemins, mais qui est aussi, dit Platon, va-nu-pied de par la nature de sa mère. Et vous, en revanche, dans ce livre-là, en tout cas, Le Dernier des Hommes, vous insistez davantage sur les textes des lois et de la République pour montrer que, justement, le mendiant, c'est d'abord le symptôme d'un mal politique. Hein. Alors, je ne sais pas quel rapprochement on peut faire, en fait, entre les deux. Et puis par ailleurs, chez Diogène, alors que j'aimerais bien distinguer de la figure de celle du mendiant de chez Platon, vous décrivez justement le mendiant comme celui qui renonce volontairement aux richesses matérielles pour une vie d'errance solitaire. Hein, Diogène qui vivait, comme on le sait, dans une jarre, sans appartenance familiale. Hein, Diogène qui renonce aussi aux conventions sociales, à la décence. Hein, il est perçu comme un provocateur. Alors ça, c'est les histoires qu'on aime bien raconter. Quoi. Il urinait en public, il se masturbait en public. Bon, il voulait revenir aussi à une vie simple. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment simple de se masturber en public. Enfin, bref. Platon disait de lui que c'était comme un Socrate devenu fou, quoi. Bon, vous écrivez à son propos qu'un tel geste de dépossession est présenté ici comme l'étape première d'un accomplissement éthique. Voilà. Du coup, est-ce que vous pourriez, Étienne Delmer, revenir sur ce qui oppose ou du moins distingue ces deux grandes figures du mendiant, celle de Platon, qui me semble vraiment très complexe, et celle de Diogène, qui m'apparaît vraiment comme extrêmement originale. Voilà.
Oui, alors, concernant Platon, je me suis concentré sur ces textes plus directement politiques pour montrer comment... projet politique ou pensée politique de Platon plutôt, je ne sais pas si c'est vraiment un projet d'ailleurs, consiste à partir de l'hypothèse d'une société juste, on retient beaucoup les aspects politiques, mais aussi des aspects économiques très importants dans cette cité que Platon conçoit, hein, cette cité en concept ou en parole.
La Kallipolis.
Voilà, la Kallipolis de la République, ou la cité des Magnètes dans les lois, donc ces habitants qui ont habité dans une cité en Crète, Platon essaye de penser les conditions permettant l'unité de la société. Cette unité, elle est même mesurée quantitativement dans les lois. Par exemple, Platon va dire, on va essayer de faire en sorte que l'écart de richesse entre les habitants ne soit pas plus de 1 à 4, en fait. Et alors, il y a tout un tas de raisons à cela, mais en tout cas, ce qui me semble très important, c'est que de 1 à 4, en fait, tous les membres de la société peuvent se représenter ceux qui sont plus riches ou plus pauvres qu'eux. Dans des sociétés comme les nôtres où les écarts explosent, finalement on ne peut plus se représenter la vie des autres si ce n'est sous la forme d'un imaginaire fantasmé et qui donne lieu à de la violence, je crois. Voilà un exemple qui fait que Platon est conscient de ça. Voilà, faut pas que ça explose les écarts. Et alors dans ce contexte-là, imaginons cette cité instituée. Eh bien dans laquelle les citoyens ont été éduqués pour... ont reçu une éducation, et où la loi et où les hommes et femmes politiques inspirent aux individus le sens de cette mesure, l'apparition d'une figure mendiante signifierait que si les conditions initiales sont, disons, parfaites ou excellentes, l'individu ne veut pas jouer le jeu de l'égalité. Il ne veut pas jouer le jeu des lois, des institutions qui promeuvent cette unité. Et donc, Platon va dire, le mendiant est un parasite, et donc il faut l'exclure. Voilà. Mais alors, évidemment, si on s'arrête à la limite consistant à exclure le mendiant, bon, c'est très violent, mais je crois que ça ne prend sens que par rapport à la construction.
C'est une partie de la construction, ce sens-là.
Voilà. L'idée... de même que Platon va dire, dans un système éducatif qui serait confectionné selon les justes principes de la raison, toute personne qui se comporterait de manière répétée en commettant des crimes affreux, on va décider que c'est un incurable parce que finalement il n'arrive pas à bénéficier de cette éducation. Donc c'est pareil, on va l'exclure. Donc c'est un peu la même chose avec le mendiant. Et alors, Diogène. Diogène est un cas singulier qui, d'une certaine manière, montre toute la positivité qu'il y a dans le fait de se déprendre d'une société qui est construite sur des inégalités et sur de la violence. Voilà. Et la figure du mendiant va intervenir de façon critique dans cette affaire-là. Et... alors, effectivement, dans cet ouvrage de 2015, j'étais encore à l'idée que, il y avait un geste de retrait de la part de Diogène par rapport à la société. Et en retravaillant depuis, ma position a un peu changé. Je pense qu'en fait, la mendicité, telle que Diogène la propose, est une façon de nous confronter à des circuits d'échange qui, loin de couper le rapport social, en fait, vise à l'instituer sur la base de l'égalité, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, quand le mendiant sollicite, nous avons tendance à nous représenter le geste de donner comme l'amputation d'un bien qui nous appartiendrait. C'est-à-dire qu'au fond, si je donne 5 euros à quelqu'un qui me demande de l'argent, j'ai l'impression de faire un transfert de propriété, j'ai moins 5 et lui, il a plus 5. Mais ce que Diogène dit, c'est qu'en fait, ça ne vaut que parce qu'on se représente soi-même l'idée qu'il y a de la propriété privée, que les biens sont séparés, etc.
Tout à fait.
Et en fait, Diogène propose, avec la mendicité, de dire, mais en fait, si nous avons besoin de peu, en fait, tout peut être commun.
Oui.
Et d'une certaine manière, donner n'est plus se déprendre, se défaire, se déposséder. Donner, c'est faire circuler, en fait, ce qui est commun.
parce que de toute façon, ce que je donne ne m'appartient pas, en vérité.
Voilà, exactement.
En ça, vérité,
c'est... Voilà. Voilà, exactement.
Il avait falsifié la monnaie aussi, je crois, donc il remet en question la valeur même de cet argent, quoi.
Ah oui, alors Diogène est un personnage incroyable, parce qu'effectivement, quand on...
Il a été forcé,
Comment ?
Non, quand il a été falsifié, il a, été, oui, il a eu de problèmes, disons, avec la justice. Et
Oui, alors c'est très... Alors c'est, pour nous qui sommes au XXIe siècle, c'est quand même incroyable, parce que la biographie canonique, pourrait-on dire, de Diogène le cynique, commence par le fait qu'effectivement, il va falsifier l'argent, la monnaie, pardon, de sa ville natale de Sinope, en Turquie, aujourd'hui. Et son père, le père de Diogène, était le responsable de cette banque, et sa fonction, la fonction de son père, était d'authentifier la valeur des pièces en circulation. Et donc, que fait Diogène ? Ce qui est pour nous incroyable, c'est qu'il s'en prend à l'institution bancaire, quand même, qui pour nous, aujourd'hui, est quand même quelque chose de...
C'est énorme.
Et à la figure du père,
par la même occasion.
Oui,
on pourrait mettre Diogène sur le divan, là, mais...
Voilà, c'est très lourd.
Moi, j'ai pensé.
C'est très lourd et c'est très clair à la fois. Et donc, Diogène va effectivement falsifier cette monnaie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les anecdotes qui sont racontées sur ce geste-là, certaines tendent à dire, en fait, peut-être qu'il falsifie la monnaie au sens où il en fait une fausse. C'est-à-dire qu'il voudrait finalement... toujours courir après la richesse. Et puis il y a une autre interprétation qui consiste à dire, mais non, en fait, il altère les poinçons qu'il y avait sur les monnaies anciennes. Hein. Il y a des figures qui représentent la valeur de la monnaie, mais aussi des figures de pouvoir, parce qu'en fait, les pièces étaient symboles du pouvoir des cités, en fait, et de leurs souverains, ou de leurs assemblées. Donc c'est à la fois un geste économique, c'est un geste politique, et c'est aussi un geste contre une des conventions. Parce qu'en grec, monnaie se dit convention. C'est une des conventions qui assoit les rapports sociaux, en fait, la monnaie. Donc c'est à ça que s'en prend Diogène. Non pas forcément contre l'idée de toute convention, mais pensons à des conventions ou des institutions, on pourrait dire, qui, plutôt que d'engendrer des rapports de servitude, des rapports de violence, engendreraient de l'égalité. Est-ce que c'est pensable ? C'est pas impossible. Et donc voilà.
Ouais, donc un souci de justice, quoi, en fait.
Ouais. Michel, juste... une question.
Oui, seulement une précision. Je tiens beaucoup à dire que Étienne Elmer aussi vient de republier, disons comme ça, La cité et son ombre, essai sur la République de Platon de Alan Bloom, c'est-à-dire c'est ta traduction et c'est aussi ton avant-propos. Et on a beaucoup cité Platon, et ici nous trouvons une lecture tout à fait passionnante, énormément passionnante, sur la République de Platon. Et après, peut-être dans la deuxième partie, ou dans la seconde partie, je devrais dire, plus correctement, on va citer un petit passage que je crois dit beaucoup sous pas mal de questions qu'on vient d'aborder maintenant. Mais Nathalie, je crois que...
Je crois que là, il est 28,
oui.
On est en direct, donc on ne va pas mentir. Et on va peut-être faire une petite pause musicale, voilà, en remerciant nos deux techniciens qui sont là aujourd'hui, Armand Gury et Séphraïm Fahmy, voilà, qui nous aident aujourd'hui. Merci messieurs d'être avec nous. Petite pause musicale et on revient après. Merci.
Aligre FM 93.1.
Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Si es fácil. Atiéndeme. Mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y...
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestro sueño. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco. Me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados. Insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario. Abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Me quieren más afuera que en mi propio país, pero aunque mis canciones...
Voilà, nous voici de retour et merci encore aux techniciens, Armand Gury et Séphraïm Famille qui sont derrière là, les vitres, et qui nous aident. Merci beaucoup messieurs, heureusement que vous êtes là. Et voilà, alors Étienne Elmer, on a bon, voilà, grand plaisir, les auditeurs t'écoutent depuis tout à l'heure sur les questions, sur les concepts de mendicité et de pauvreté. C'est toi qui nous as demandé de passer cette musique Resistente de René. Alors, c'est intéressant, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu aux auditeurs qui ne sont pas nécessairement bilingues. Et puis, ça a à voir aussi avec le fait que, voilà, toi, tu enseignes à l'Université de Porto Rico aux États-Unis. Et c'est, on se disait ça hors antenne, en quoi finalement, cette musique que tu nous as demandé de passer, les concepts de pauvreté, de mendicité, surgissent aussi de cette culture, de cette université dans laquelle tu enseignes.
Oui, et eh bien, à votre invitation, j'ai proposé ce morceau, bon, effectivement pour faire une référence à Porto Rico où je travaille depuis maintenant 16 ans bientôt, dans un contexte qui est assez intéressant quand on s'intéresse à la pauvreté, parce que Porto Rico c'est les États-Unis et en même temps ce n'est pas les États-Unis. Alors il y a à cela des raisons historiques qui font que Porto Rico n'est pas un État des États-Unis, mais ce qu'on appelle un État libre associé. Ce qui, sur place, fait beaucoup rire, parce que Porto Rico n'est pas un État. La question de savoir si Porto Rico est libre est une vraie question, et associée encore moins, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé aux décisions qui sont prises concernant son futur donc, et son statut. Donc, couramment, là-bas, on dit que c'est la colonie. Donc, cette musique provient d'un chanteur qui s'appelle René, qui est un chanteur d'un ancien d'un groupe de reggaeton un petit peu connu qui s'appelle Calié Tressé. Et cette chanson illustre un petit peu, donc René a à peu près, je crois, une cinquantaine d'années, Et donc le Porto Rico qu'il décrit dans cette chanson est le Porto Rico de son enfance, dans une famille relativement modeste, et puis une rupture familiale, le père s'en va, la maman, comme c'est une réalité sociale à beaucoup à Porto Rico, hein, y a beaucoup de familles monoparentales, c'est-à-dire souvent des mamans seules avec leurs enfants et des mamans très jeunes avec leurs enfants. Qui doivent donc subvenir aux besoins de la famille, alors souvent avec le soutien des grands-parents. Et là, ce que raconte René dans la chanson, eh bien, c'est que finalement sa maman s'est toujours débrouillée, mais effectivement dans des conditions pas simples. Alors on pourrait dire c'est un peu comme ça partout, ou dans beaucoup d'endroits. À Porto Rico, ce qui est frappant, c'est le contraste quand même entre... un horizon américain, avec ce que veut dire l'Amérique, c'est-à-dire une forme d'aisance matérielle quand même. C'est quand même ça qui fait un peu, qui est en partie une partie de l'ADN américain, le confort matériel, l'aisance, mais avec des conditions de réalisation qui ne sont pas là, en raison en grande partie de rapports politiques avec les États-Unis, cette situation qu'on peut appeler coloniale sans trop trahir la vérité. Et si je peux me permettre de citer une de mes collègues sur place, qui s'appelle Rocío Zambrana, elle a écrit un livre très intéressant sur la question de la dette, parce que depuis 2017 ou 2016, je ne sais plus, l'État de Porto Rico est en faillite, et donc les finances de l'État sont entre les mains d'une entité qui s'appelle le Comité de contrôle fiscal, entité qui est au-dessus du gouverneur. Et donc, l'objectif de cette entité, c'est de rembourser la dette aux créanciers, qui sont en général des créanciers privés, pour l'essentiel. Et donc, ça passe par une réduction de tous les budgets. Et en ce qui me concerne, les budgets de l'université. Donc, ça veut dire qu'on a des étudiants, par exemple, qui ne savent pas s'ils pourront finir leur cursus, faute d'enseignants, en fait. Voilà, parce que l'université n'embauche plus, parce que la moitié des enseignants sont des enseignants vacataires qui, s'ils trouvent une meilleure offre de travail ailleurs, eh bien partent. Ce qui fait que les étudiants se retrouvent... Le cours X ou Y ne sera pas assuré alors qu'ils devaient le prendre pour la suite de leur... Donc c'est ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment une situation complexe avec des écarts de richesse assez importants. Donc voilà, je voulais faire un clin d'œil à la fois à Porto Rico, à la thématique qui est celle de mes travaux. Et encore une fois, on a parlé au début de la relativité de la pauvreté. La situation de Porto Rico n'a rien à voir avec ce qu'on peut savoir de la situation à Haïti, par exemple. Oui. Où là, on a vraiment des situations épidémiques même très très graves, un chaos politique, je crois que la ville de Port-au-Prince est aux mains de gangs, ça n'est pas le cas à Porto Rico, il y a de la violence, il y a du narcotrafic, etc. Mais on peut s'y promener en toute sécurité sans qu'il nous arrive jamais rien. Donc c'est, encore une fois, j'ai bien conscience que les contextes sont très différents, mais je ne crois pas qu'on doit minimiser quand même pour autant la réalité de situation qui, dans un horizon donné, pourrait être bien meilleure, en fait.
Oui. Et alors, on a parlé de pauvreté, peut-être de croissance sans fin, mais aussi, Étienne Elmer, tu as bien travaillé aussi sur la question de la décroissance, mais dans un horizon de la philosophie, encore une fois, philosophie ancienne. Et à ce sujet, je voudrais mentionner au moins ce livre qui s'appelle Épicure et l'économie du bonheur, le passage clandestin 2021. Et je voudrais lire un petit extrait de ce livre pour te faire réagir. Et en gros, il y a déjà des précurseurs, précurseuses de la décroissance, là, de l'Antiquité. Étienne Elmer nous écrit en faisant, en proposant des observations très lucides sur la question d'Épicure et de Lucrèce. Et il nous dit « Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, insatisfaits ou malheureux. » ou bercé d'une illusion de bonheur parfois acquise au prix du malheur des autres. La racine du mal se trouve dans le dérèglement maladif de nos désirs qui, sous l'effet d'une fausse représentation du plaisir et du bonheur, nous pousse à vouloir posséder sans limite, à chercher à n'importe quel prix un maigre pouvoir ou une gloire aussi vain qu'éphémère. Ça, ce sont des observations que justement Étienne tout réfère à Lucrèce et Épicure, mais qui décrivent magnifiquement aussi la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, alors, c'est toujours un exercice un petit peu artificiel de vouloir chercher chez des penseurs d'il y a 2000-2500 ans une actualité brûlante, mais je me suis prêté au jeu. Et je crois que l'articulation entre société et nature dans les sociétés anciennes était quand même assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, même si effectivement la pensée environnementale aujourd'hui tend à revenir à ça, mais je crois qu'il n'y avait pas de coupure entre le social et le naturel d'une certaine manière, ou qu'il y en avait moins. Et le passage que tu as cité, je m'en distancerai un tout petit peu de la façon suivante, c'est-à-dire que Épicure et Lucrèce, et surtout Épicure, se présente un peu comme un médecin de l'âme humaine, et nous face à ce qu'il constate comme étant une insatisfaction répandue, propose des remèdes. Y a un ton. Ce dont avec quoi je me distancierais, c'est un petit peu le ton qui pourrait paraître un peu moralisant.
Oui,
parce qu'encore une fois, il est peut-être difficile d'échapper à ça, d'échapper à cette tendance. Ces désirs sont construits aussi par tout un appareil social, économique. On ne décide pas, d'une certaine manière, de nos désirs. On a peut-être une marge de manœuvre ou une façon de les reprendre par la lucidité, par une forme de réflexion, mais il est quand même difficile d'échapper à la folie de son temps, d'une certaine manière.
Oui, il y a une sorte d'utopie dans ces pensées-là, et il y a une injonction continue, peut-être aussi, à haut désir.
Oui, et cela dit, c'était peut-être plus facile à l'époque d'Épicure qu'aujourd'hui.
Ah oui, bien sûr. tout à fait.
Alors, je ne sais pas, Stéphanie, tu avais peut-être une question, sinon moi, je voulais peut-être un peu
comme tu veux.
Revenir un petit peu sur moi, ce qui m'a semblé important dans ta recherche, Étienne Elmer, c'est l'enjeu philosophique et global de la pauvreté. Puisque j'ai lu dans un de tes écrits, tu utilisais l'expression « la centralité théorique de la pauvreté ». J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ce que j'annonçais un peu au début, c'est-à-dire comment tu, par cette question de la pauvreté dont tu nous as montré que c'était une pauvreté aussi bien économique que manque aussi intellectuel. On peut être pauvre parce qu'on n'a pas accès aux outils permettant d'avoir accès à la culture. Donc en quoi la pauvreté permet finalement pour toi d'avoir une importance, un fondement théorique pour la philosophie aujourd'hui, est-ce que tu nous rappelais que ça avait disparu du champ philosophique finalement, la pauvreté?
Oui, alors je dirais deux choses qui correspondent aux deux facettes que j'ai présentées de la pauvreté, c'est-à-dire une pauvreté contre laquelle il serait sans doute bon de lutter, et une facette peut-être plus positive, liée à des questions de sobriété collective ou de frugalité. Bon, là aussi, il faudrait réfléchir à la différence des termes. Mais centralité théorique au sens où, les difficultés dans lesquelles des individus ou des groupes se trouvent est un moteur légitime suffisant pour décider de se mettre à penser et en vue de d'améliorer leur situation, je pense qu'on est que la pauvreté devrait être au centre des questions sociales et politiques actuelles. Alors, bien sûr, je ne cherche pas à hiérarchiser les maux, les souffrances, etc., parce qu'il y a d'autres questions qui sont d'autres inégalités qui sont très prégnantes, mais je pense que on n'accorde pas suffisamment aux différentes facettes de la pauvreté, bien qu'il y ait beaucoup d'études sur la pauvreté, c'est ça qui est paradoxal aussi, la place qui devrait être la sienne. Beaucoup d'études, les sociologues travaillent beaucoup sur la pauvreté, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas la centralité philosophique qu'elle devrait avoir. Voilà. Y a beaucoup d'études, les sociologues travaillent énormément sur la pauvreté, il suffit de citer Serge Pogam par exemple, qui est le grand spécialiste de la pauvreté en France.
Et selon toi, pourquoi ce manque de centralité? C'est que m'étonne un peu.
Je pense que parler de la pauvreté, c'est aussi parler de la pauvreté en vue de trouver des remèdes ou des solutions. Donc il y a des enjeux pratiques qui demandent, ou dans une certaine mesure requièrent, d'être un peu chiffrés, mesurés, d'être objectivés. Et ça, ce sont les sciences sociales qui le font. C'est l'économie, c'est les sciences sociales, l'histoire bien sûr, hein, les historiens ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la pauvreté à différentes époques. J'ai eu le plaisir de recevoir une historienne dans un des séminaires du Collège international de philosophie, Axel Dolino-Brodiez, j'espère ne pas altérer son nom, qui a beaucoup travaillé sur Emmaüs, par exemple, mm-hmm. comment cette association aide les personnes démunies. Mais du point de vue de la philosophie, c'est pas si fréquent, en fait. Mm-hmm. Alors, c'est pas si fréquent, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques personnes qui travaillent dessus. Donc peut-être que je peux en citer deux, que j'ai eu le plaisir également de faire intervenir. Monique Deveau, ouais. qui est une collègue canadienne, et qui a écrit un ouvrage très intéressant sur l'agentivité des personnes pauvres par rapport aux mesures qui sont prises pour les aider. Donc en fait, elle montre que dans beaucoup d'agences internationales d'aide à la pauvreté, il y a des programmes. C'est ça aussi qui est paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de programmes, mais en fait, la pauvreté se perpétue finalement. Mmh. Donc on se demande pourquoi ça ne marche pas, quoi. Mmh. L'idée qu'elle développe est vraiment intéressante. Elle montre que ces programmes sont décidés d'une certaine manière sans qu'on demande finalement aux personnes concernées ce qui leur conviendrait. Mmh. Donc il y a vraiment une négation de leur... de leur agentivité ou de leur caractère de sujet libre, raisonnable, parce que peut-être que derrière il y a toujours ce préjugé qui court depuis l'Antiquité, sans doute, c'est que le pauvre n'est pas vraiment rationnel, quoi. Mmh. Le pauvre, il n'est pas en mesure, comme il est pauvre, finalement ça altère sa raison et il n'est pas en mesure de savoir ce qui est bon pour lui. Mmh. Voilà, une victime, et il faut la prendre en charge en l'objectivant, quoi. Mmh. Donc elle montre comment, dans un certain nombre de pays, des associations se forment qui mettent au centre les groupes ou les personnes concernées, qui définissent elles-mêmes ce qui serait bon pour elles, etc. Donc voilà, il y a elle. Et puis, dans un autre registre, il y a également Christiane Voller.
Oui.
Avec son, que vous connaissez.
Qu'on a souvent reçu.
Voilà, hein, avec son travail de philosophie de terrain.
Tout à fait.
Qui m'a semblé, dans un autre registre complet, hein, oui. que celui que je viens d'évoquer, puisque dans le premier cas, il s'agissait de populations vraiment dans des situations d'extrême pauvreté, dans des pays du tiers-monde. Christiane Voller va, avec son travail de terrain, d'enquête, parler à des populations dont on peut dire qu'elles sont pauvres au sens où elles sont exclues, marginalisées, invisibilisées, sur des questions d'espace, des questions de rapport d'espace avec des pôles. Il me semble qu'il faut une centralité théorique est à revoir et à mettre en place. Oui.
Aligre FM 93.1
avec son charmant petit générique. Merci aux techniciens.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Aligre FM, je vous souhaite la bienvenue à ces petits divertissements de philosophie au présent qui s'appellent Flanosophie. Et si on ne peut pas enseigner la philosophie mais à philosopher, comme nous l'a appris Emmanuel Kant, j'ose dire qu'on ne peut pas enseigner la flanosophie mais seulement à flanosopher, chacun à son rythme. Et alors, voilà la meilleure façon pour célébrer notre quasi-science de divertissement intellectuel, en flanosophant, bien sûr. Et pour le faire aujourd'hui, nous avons besoin d'un objet bien spécifique. Cet objet nous permet de régler notre regard, d'accourcir les distances, de rendre les contours des objets plus nets, de changer la couleur de la réalité, mais aussi de marquer notre esprit cool ou notre goût démodé. Vous avez bien compris que nous allons commencer à flâner avec des lunettes, qui sont notre objet flanosophique pour cette fin d'année. Les lunettes sont un objet plutôt des philosophes qu'un objet proprement philosophique. le savent très bien Baruch Spinoza, célèbre polisseur de lentilles, et encore plus célèbre auteur de deux monuments de la pensée occidentale, l'éthique et les traités théologico-politiques. Et le savait très bien aussi un certain Platon, dont aujourd'hui notre ami Étienne a beaucoup parlé, parce qu'en sortant de la caverne, il faut toujours se protéger de la lumière envahissante du bien. Et voilà qu'on s'en est les lunettes de soleil. Eh bien, au-delà des vicissitudes optiques dans l'histoire de la philosophie, je vous propose de flâner dans un espace pas suffisamment connu, qui se trouve à Paris, quelque part, le magasin d'optique philosophique Philosophie au présent. Et pour l'instant, laissez-moi introduire les trois modèles des lunettes les plus vendus de ces dernières saisons. Premier modèle, les lunettes Parménides, qui sont rondes, rappelant la forme de l'être, et qui vous permettent de parvenir à l'essence des choses. Deuxième modèle, les lunettes Descartes, cadre carré en deux variantes géométriques, res cogitans et extensa pour les personnes irrémédiablement méthodiques. Troisième modèle, les lunettes Michel Foucault, disponibles en toutes couleurs, formes et matériaux, avec ou sans lentilles, idéales pour les expéditions archéologiques dans la confusion du présent. Mais en laissant de côté les modèles optiques, essayons de préciser un point majeur. Les lunettes peuvent réellement devenir un objet philosophique. Non seulement une métaphore de ce que la philosophie a la capacité de produire en changeant le réel humain, mais un dispositif philosophique au sens propre. Ce que nous appelons lunettes, en réalité, pourrait être la matérialisation, la concrétisation d'un invisible qui fait déjà partie de notre regard, qui est préfabriqué d'une certaine manière par la culture dans laquelle nous naissons. Ce que la philosophie nous apprend, c'est qu'il n'y a pas de lunettes préfabriquées qui ne peuvent pas être défabriquées, déconstruites. Mais c'est à vous, et seulement à vous, de choisir l'aspect, le matériel, la couleur et l'épaisseur des lentilles de vos lunettes, accessoires immanquables, immanquables pour un bon flânosophe.
Merci beaucoup. Mais où était Gilles Deleuze, hein? Tu as parlé tout
le temps,
mais
où était...
Les lunettes deleuziennes, ça doit être quelque chose aussi. Hein?
Bon. Bah bon, excellente idée.
Voilà. Stéphanie, on passe peut-être directement au questionnaire parationnel. Tu t'en charges et après, allez, une petite annonce pour tous nos auditeurs.
Alors, on a une petite tradition dans notre émission, c'est de poser un questionnaire rapide avec des questions qui attendent une réponse spontanée, sans réfléchir, immédiate. Voilà. Donc, première question.
C'est tout
bon. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour vous?
Complètement, bah, à peu près tout.
Tout, voilà, comme ça, c'est
super.
C'est fait. Quel autre métier auriez-vous voulu faire?
Rentier ou architecte.
Ok. Quelle est la chose la plus irrationnelle à laquelle vous avez déjà pensé?
Peut-être faire de la philosophie, peut-être.
Ah, voilà.
Ah, super. Super.
À quel animal pourriez-vous associer votre recherche?
Alors là, c'est une colle. Enfin, toutes ces questions sont des colles. Hein. Un animal, une réponse fulgurante comme ça. Je ne sais pas.
Tu es en train de réfléchir trop.
Hein. Ouais, je réfléchis trop.
Moi, j'avais pensé, quand tu parlais beaucoup de Diogène, je me suis dit peut-être qu'il va parler du chien, mais...
Mais oui, mais c'est... Mais exactement. J'allais le dire.
Voilà. Et enfin, quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et pour lui dire quoi? Personnage imaginaire ou historique ou philosophe?
Qui aurais-je aimé rencontrer? Oui, bon, Platon, bien sûr, peut-être, mais j'aurais été trop intimidé pour lui parler. Diogène, j'aurais eu peur qu'il me morde. Jean Moulin.
Wow.
Voilà, parce que Jean Moulin ou Cavaillès, parce que il y a quand même quelque chose là qui est de l'ordre de l'héroïsme et du courage. Qui sont des courages absolus, enfin, ouais,
voilà. J'ai le temps de dire une petite cette...
Une ve- oui.
Ouais, à ce propos, là, justement, en rapport avec votre titre, Le dernier des hommes, est-ce que c'est, ça s'entend justement en double sens, c'est-à-dire oui. le dernier dans l'échelle sociale et en même temps le dernier à résister oui. face à l'inhumanité ? Est-ce
oui,
que
complètement.
C'est ça
oui,
donc,
tout à fait.
Je pensais à Jean Moulin, quoi. Donc, mmh. voilà.
Oui, Jean Moulin.
Ouais,
ou...
Et Cavaillès, oui, c'est ouais. sûr.
Cavaillès voilà. aussi. Ou...
Ouais.
Voilà.
Ben, merci.
Bon. Alors, voilà, on termine et les techniciens sont en train de nous rappeler et les philosophes, arrêtez de parler un petit peu, il y a absolument ras-le-bol. Je voulais simplement terminer pour faire un appel auprès de nos auditeurs. Vous savez que Aligre FM existe depuis 43 ans, mesdames et messieurs, et que cette radio, elle ne vit que grâce à vous, elle n'est libre que grâce à vous. Nous sommes en ce moment en train de, voilà, de proposer à nos auditeurs, à vous qui nous écoutez, de nous aider à survivre, à avoir un peu d'argent. On recherche à collecter à peu près 20 000 euros. Alors on compte sur vos dons. Vous voyez, on a une petite adresse qui s'appelle https://www.eloasso et vous allez trouver Aligre FM. Vous cliquez là-dessus, voilà, avec votre moteur de recherche. Et puis vous nous laissez un petit peu, pas pour nous, hein, nous on travaille gratuitement. On a des techniciens absolument magnifiques qui eux aussi travaillent gratuitement, mais simplement pour que la radio puisse peut-être un jour avoir des techniciens avec des vrais salaires. Tout ça, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, vous nous donnez ce que vous pouvez, 20 euros, 50 euros, 100 euros. On compte sur vous, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais c'était très important. Nous sommes la dernière radio libre. Mesdemoiselles, messieurs, c'est quand même extraordinaire. Voilà, 43 ans d'existence. Bon, voilà, j'ai bien fait, hein ? Oui,
merci.
Merci. Il faut quand même qu'on dise qu'on a eu des techniciens fabuleux qui nous font des grands sourires alors qu'on est carrément en train de dépasser. Armand Gury, merci beaucoup Armand. Et Sephraim, famille, merci Sephraim, merci à tous. À très bientôt les
à
amis.
À très bientôt, merci
Étienne Elmer d'être
merci
venu.
Merci à vous surtout.
Merci.
Alors, toutes les informations seront bien sûr sur notre podcast sur le site d'aligrefm.org. Et en particulier les références bibliographiques.
Voilà. Ouais. Et grâce à toi, on est sur Instagram et Spotify et,
Spotify
et tout ça.
Spotify et Instagram.
Oh, quelle
voilà,
merveille.
On va trouver partout.
Quelle merveille.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Étienne.
Merci
Étienne Elmer. À bientôt.
Aligre FM 93.1